Bon matin.
Bon matin.
Oh, je voulais juste le tasser un petit peu, mais il va-tu... On va essayer de ne pas y toucher. Alors, je voulais encore une fois vous remercier de m'inviter comme ça à venir enseigner la parole. Ça me passionne énormément, étudier la parole et... Pour moi, premièrement, je le dis pas juste parce que je sais qu'il faut le dire, mais sincèrement, quand j'étudie les Écritures, je le fais dans un but égoïste. Je le fais pour moi. Je le fais vraiment pour voir qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers sa parole. Et après ça, j'essaie de partager aux frères et sœurs qu'est-ce que Dieu, comment Dieu me parlait à travers ces textes. Merci aussi pour le soutien que je reçois à chaque fois que je vous visite. Puis aussi, la semaine passée, il y avait une enveloppe adressée à mon nom. Donc, c'est une personne qui a mis quelque chose pour moi, anonymement. Donc, moi, je ne peux pas savoir c'est qui, mais je veux remercier la personne qui a fait ce geste, ce don-là. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, ça nous touche beaucoup, Marie-Pierre et moi, que les gens nous soutiennent de la sorte. Alors, que Dieu vous redonne au centuple, comme on dit, puis si pas ici, ça sera avec lui en haut. Alors, ce matin, on parle de faux docteurs. Je vais juste aller en mode plein écran comme ça. Donc, c'est un problème quand Paul écrit, pas Paul, Pierre, ça se peut que je me trompe quand j'enseigne entre Pierre et Paul, mais là, on est dans Pierre. Alors, quand il écrit, c'est un problème, puis il va s'adresser maintenant à propos de ces faux docteurs. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Pierre 10, à la moitié du verset, jusqu'au verset 22. Et on va lire ensemble notre texte avant de regarder ces points-là. Oui, je vais te dire quand. Vous pouvez tourner. Les textes bibliques, j'essaie de les mettre plus... dans vos bibles, pas trop à l'écran. J'aime ça quand on lit la parole. Et normalement, j'amène ma bible en avant, mais c'est trop petit, alors je l'écris en gros là. Mes yeux, ils faiblissent. Alors, 2 Pierre 2, 10, dans le milieu du verset, « Audacieux et arrogant, donc on parle de faux docteurs, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. C'est une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et Seigneur, on veut prendre quelques instants. C'est des paroles dures à l'égard de ces hommes qui tordaient les Écritures. Seigneur, éclaire-nous, puis parle-nous. Je sais bien que ce n'est pas un texte nécessairement qui s'applique à toutes les églises partout dans le monde, mais certainement il y a de ces faux docteurs qui circulent, des faux enseignants, et que ça puisse, Seigneur, nous être utile. Donc, bénis ces instants que nous avons ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, vous avez sûrement, là, je lisais quelque chose, puis je ne sais pas si vous avez eu des images de personnes qui vous est venue dans la tête. Pas nécessairement un prédicateur que vous connaissez ici à Québec ou dans l'Église, mais peut-être plus dans les émissions qu'on voit à la télévision. On en entend beaucoup plus aux États-Unis, des faux docteurs à la télé ou Internet, parce qu'on regarde de moins en moins la télé. Hein, ils vont parler de guérison, ils vont parler du Saint-Esprit, ils vont chasser la maladie au nom de Jésus, ils vont réprimander puis chasser les démons. On voit toutes sortes de phénomènes bizarres, les gens ils vont tomber par terre, vont parler dans des langues inconnues. Puis vers la fin, souvent on demande de donner généreusement. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de miracle. Alors, donnez si vous voulez avoir la puissance pour vous. En mars 2019, j'étais à la Shepherd Conference, la conférence des bergers en Californie, à l'église Grace to You. Et j'y retourne, je pars demain pour la conférence 2024. Mais en 2019, j'y étais, puis j'ai assisté à une prédication de Costi Hinn. Je ne sais pas si vous connaissez Costi Hinn. C'est le neveu de Benny Hinn. Connaissez-vous Benny Hinn? Quelques-uns l'ont déjà entendu pareil. C'est un prédicateur qui va... La prédication, l'évangile de prospérité. Il fait toutes sortes d'affaires. Puis même, il a son jacket, puis il l'avait, puis il fait ça avec son jacket. Puis là, tous les gens qui sont en avant, là, ils tombent parce que là, il y a la puissance dans le manteau de ce monsieur Hinn. Et il prêche un faux évangile de prospérité. Clairement, vous allez pouvoir voir sur Internet. En fait, je ne vous encourage pas d'aller voir ce genre de vidéo, mais si vous êtes curieux à savoir qui est ce Benny Hinn, je ne vous encourage pas d'aller voir ces gens-là. Et Costi, c'est le neveu. Et j'ai lu son livre parce qu'il vendait un livre sur son témoignage. Et il a expliqué comment Dieu l'a sorti de ce milieu-là. Parce que lui, étant le neveu, il était... Et la suite, il va continuer l'héritage de son oncle, puis de son père, puis son oncle qui est très connu, qui est millionnaire. Il racontait même la première fois qu'ils ont réussi à arnaquer parce qu'ils ont rencontré une vieille dame, puis là, ils parlaient du ministère, parlaient de Jésus, puis là, elle a signé leur premier million de dollars. Puis là, quand ils ont sorti, ils se tapaient dans la main, puis ils étaient contents, ils avaient leur premier million de dollars. Il racontait toutes sortes de choses dans lesquelles il était impliqué. Costi Hinn. Mais maintenant, Costi Hinn, il est vraiment né de nouveau. Christ l'a sorti de là, puis il prêche l'Évangile, puis il dénonce ce que mon oncle fait. Et je vais parler un peu de son histoire à travers notre texte de ce matin. Je vais vous demander, M. Mario, de mettre la prochaine slide. Voici un extrait de... Oh, c'est rendu dans le milieu. Je pense que tu n'as pas cliqué sur la flèche. Retourne avec le... Au début. Encore, au début. Ouais. Puis il fait juste cliquer sur la flèche parce que tu as cliqué sur la barre, je pense. Ouais. C'est bon. Exactement. Alors voici ce qu'il raconte dans son livre. Il dit « Debout sur une corniche rocheuse, Il était juste à l'extérieur d'Athènes. Il dit, j'ai tout compris. Il dit, j'étais là, l'un des plus beaux hôtels du monde. J'avais ma propre villa privée de 2000 pieds carrés, avec piscine privée, une immense cour. En regardant au-dessus de l'eau ce jour-là, j'ai pensé que j'y étais arrivé. C'était ça. Ma vie était définie. Je voyageais à travers le monde pour amener l'Évangile jusqu'au bout du monde, comme Jésus nous a dit de le faire. Je faisais partie d'un ministère qui guérissait les malades et ceux qui souffrent à travers le monde. Je serai un homme de Dieu oint tout comme mon oncle et mon père. Maintenant qu'ils avaient ouvert la voie, tout ce qu'il me restait à faire était d'achever mon engagement dans le ministère de mon oncle béni, d'obtenir mon diplôme universitaire, puis de me lancer directement dans le ministère. Alors que je regardais la mer ce jour-là, la même étendue d'eau que l'apôtre Paul naviguait lors de ses voyages missionnaires, il y avait juste un problème. Nous ne prêchions pas le même évangile que Paul. Donc, il a été saisi à un moment donné par le Seigneur, puis il est sorti de là et il s'est converti. Donc, ce matin, ce que je veux qu'on regarde, c'est un peu plus de ces faux docteurs. On va voir leur début. Ensuite, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'ils font? Puis, finalement, leur fin. Alors, tu peux avancer au premier slide. Leur début. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce qu'un faux prophète devient un faux prophète? Bonne question. Est-ce qu'il se lève un bon matin et il se dit, « Bon, ben, je pense que je vais me lancer dans le ministère de la fausse prophétie, je vais essayer d'attraper le plus de monde possible. » Selon le verset 15, ils ont commencé à suivre le droit chemin. C'est des gens qui ont commencé à suivre le droit chemin, mais qui l'ont quitté éventuellement. Comme la parabole des quatre terrains. Vous vous rappelez cette parabole-là, hein, les quatre terres? Ils ont suivi pour un temps, et ils ont quitté le droit chemin pour suivre, le texte nous dit, la voie de Balaam. Alors, il ne faut pas penser que ce sont des chrétiens qui ont perdu leur salut. Ce sont plutôt des religieux qui se sont éloignés de la vérité qu'ils ont entendue. Ils ont entendu la vérité et ils ont quitté, ils se sont éloignés de cette vérité-là. Vous savez, on peut connaître Jésus sans être connu de lui. On le voit dans les évangiles. Et c'est même épeurant, ces textes-là. Je connais Jésus, je fais des choses en son nom, je parle de lui, mais il ne me connaît pas. Jésus lui-même nous dit dans Marc 13, 22, car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ plutôt et de faux prophètes, et ils montreront des signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Et j'aime ce « si possible », si possible, mais on sait que Dieu nous garde. Jésus fait clairement une distinction entre les faux prophètes et les élus, ses vrais enfants. Puis il sous-entend que les élus, ses vrais enfants qui lui appartiennent, ce sera impossible de les séduire, parce que Dieu va les garder en sécurité. Alors, ces gens-là ont entendu la vérité. Ils ont quitté le droit chemin, à un moment donné, pour suivre la voie de Balaam. Balaam, vous vous rappelez, il avait été embauché par le roi de Moab, Balak. Pourquoi? On lui avait demandé de maudire Israël. Vous vous rappelez dans Nombre cette histoire-là. Hein? Il devait aller maudire Israël. Il lui avait offert beaucoup d'honneur et tout ce qu'il lui demanderait. Hey, vas-y, va maudire Israël, je vais te donner beaucoup d'honneur. Mais on le sait dans l'histoire que Dieu est intervenu. Et Balaam, qu'est-ce qui est arrivé? Il a finalement béni Israël à la place. Même si Nombre 22 à 24 nous montre un Balaam qui fait ce que Dieu lui demande, on le sait que par derrière, Balaam, il n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas un vrai prophète de Dieu, un élu, comme on pourrait dire dans le Nouveau Testament, parce qu'il a amené Israël quand même à se rebeller dans l'idolâtrie et dans l'adultère. Alors, il s'en allait pour maudire, il était arrêté, il a béni, mais en arrière, c'était un faux pareil. Et il a éventuellement amené Israël à se rebeller. Puis on le voit dans Apocalypse 2,14 qui est à l'écran. Il dit, « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. » Et pourquoi il a accepté de faire ça? Pour l'argent. Les faux docteurs quittent le droit chemin à cause de l'amour de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise ces faux docteurs-là? Alors, le point 2, ce qui les caractérise. Premièrement, ils ont le cœur exercé à la cupidité. J'ai lu un article il y a quelques années qui dévoilait les 15 pasteurs les plus riches au monde. En tout cas, j'ai été surpris de voir cette liste-là. Beaucoup de prédicateurs de l'Évangile de prospérité étaient sur cette liste-là. Et Kenneth Copeland, je ne sais pas si vous connaissez Kenneth Copeland, c'est un... Quand je vois cet homme-là sur YouTube, j'ai l'impression qu'il est possédé du diable. Quand je le regarde avec ses yeux et qu'il parle, il me fait peur, cet homme-là. Il y a Benny Hinn qui était là, Joel Osteen, Joyce Meyer, et je dis Joyce Meyer parce que je sais que dans nos églises, il y a beaucoup de personnes, j'ai principalement vu plus des madames, qui aimaient beaucoup Joel Osteen. Puis Joel Osteen a dit beaucoup, beaucoup de belles choses. On pourrait peut-être regarder, écouter des messages, puis dire, ah, il y a 95% de ce qu'il a dit qui est biblique, qui est vrai. Mais il y a un petit poison de 5% que, ouf! Le problème, c'est que les madames, parce que je fais référence aux madames, parce que c'est des madames qui sont venues me parler de ça après, ils n'ont pas beaucoup la connaissance des Écritures, puis le petit 5% de fausseté, de fausse doctrine, ils ne sont pas capables de le détecter. Alors, ils écoutent, puis eux autres, ils trouvent ça bon, puis oui, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors, voyez-vous le danger de ces personnes-là? Il faut vraiment être fondé dans les Écritures pour détecter, voir l'erreur. Notre texte nous dit qu'ils sont exercés. Puis le mot « exercer », ça vient du mot grec « gymnazo », d'où vient notre mot « gymnase ». Hein? Fait qu'ils sont exercés. Ils font de la gymnastique pour réussir à attraper le monde puis à leur faire donner de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez Paula White. Paula White, c'est une dame aussi, Évangile de prospérité. Tu peux mettre la prochaine. Elle dit, tu peux cliquer jusqu'à temps que tu vois Paula White, parce que c'est peut-être en retard. Il va falloir que tu cliqueras, puis parce que si je te dis à chaque fois, là, je vais être tout le temps arrêté. C'est une publicité qu'il y avait. Elle dit, « Sème une graine de résurrection. » Elle dit, tu peux envoyer 1144 $ ou 144 $ ou 44 $ ou 11 $ pour Jean 11:44. Vous savez, Jean 11:44, ce que ça dit? Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, parle de Lazare, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, ils ont une grosse campagne pour aller chercher des fonds sur Jean 11:44. Et là, ils ont joué avec les chiffres. Hein? Tu peux envoyer 1114, 144, 44. Peu importe, t'envoies. Puis nous, on va vous envoyer un tissu qui a été oint sur lequel nous avons prié. Alors, nous envoyez votre argent, puis vous allez recevoir par la poste un morceau de tissu. Vous savez, c'est des experts, parce qu'il y a des gens qui répondent à ça. Il y a des gens partout dans le monde qui croient à ça, puis qu'ils ont ce désir-là d'avoir quelqu'un qui ont prié sur un tissu, d'avoir une bénédiction, d'avoir une guérison, d'avoir peu importe. Donc, ils croient ça, ils envoient leur argent. Ils sont vraiment des experts, des manipulateurs, réussissent à te faire croire que quand Dieu ne te guérit pas, bien, c'est encore toi le problème, parce que tu n'as pas assez de foi. Mais rappelez-vous combien de fois Jésus a guéri sans la foi. Vous vous rappelez lui qui était paralysé, puis il y avait la piscine, là, puis il y avait comme cette superstition avec l'eau qui bougeait, avec un ange. Donc, puis lui, il ne se tourne pas vers Jésus, il se tourne vers la piscine. Hein? Mais Jésus l'a guéri pareil. Tu sais, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, il dit, je veux bien y aller, je veux y aller dans la piscine. Il aurait pu dire, ben, Jésus guérit-moi. Non. Non, je veux y aller dans la piscine, mais je ne suis pas capable. Puis Jésus le guérit pareil. Il n'y a pas de foi en Jésus, il y a la foi dans la piscine. Mais Jésus le guérit pareil. Donc, tu n'as pas assez de foi. Ce n'est pas un critère pour être guéri. Oui, c'est sûr qu'il y a la foi quelque part, mais Dieu peut guérir qui il veut, quand il veut, même si la foi n'est pas là. Mais c'est ce qu'ils vont dire. Si tu n'es pas guéri, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas assez de foi. Alors, c'est toi le problème. Ou envoie plus d'argent. Ils vont dire, ton trésor est dans le ciel. Mais Dieu n'a jamais dit que tu ne pouvais pas en sortir un peu pour ton séjour ici sur la terre. Mais là, oh, mon trésor est en ciel, puis je peux en sortir. Puis oui, tu peux en sortir, puis tu peux être riche ici sur la terre. Ensuite, deuxième point, ils disent, ils sont audacieux. Le texte dit, ils sont audacieux et arrogants. Ce que les faux docteurs ont en commun, c'est leur confiance extraordinaire en eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ils ont une confiance, une arrogance. Kenneth Copeland, c'est un des seules vidéos que j'ai regardé de lui, mais c'était durant la COVID, en mars 2020. Il a prononcé un jugement qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il a pris autorité sur la COVID-19 et sur Satan. Et il a pris autorité pour que cette COVID, ce virus-là, disparaisse. Il a ordonné qu'un vaccin soit tout de suite fait. Il a affirmé que la COVID-19, c'était fini. Je m'en souviens, en mars, il dit, c'est fini. C'était sa prédiction. Et comme de fait, toutes ces affirmations qu'il a faites, il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a rien qui s'est accompli, absolument. Donc, si on veut être conséquent avec les Écritures, bien, on va aller chercher toute une roche, puis on va aller le lapider. On n'est plus dans l'Ancien Testament, mais vous comprenez que c'est un faux prophète, clairement. Mais les gens continuent de suivre. Costihin raconte, lui, qu'il était tellement arrogant. Costihin, c'est le jeune qui s'est converti, le neveu. Il était tellement arrogant que n'importe qui osait remettre en question son autorité ou l'autorité de sa famille, les Hin, était menacé du jugement divin et il était excommunié de l'Église. Tu ne pouvais jamais parler contre cette famille-là. Voyez-vous l'arrogance? Nous, on est loin. Et il va dire, je ne sais pas si je l'ai à l'écran, là, il va dire, bien sûr, avoir tout ce pouvoir signifiait que nous pourrions et devrions en bénéficier aussi. Après tout, nous étions l'élite spirituelle, nous avions un accès direct à Dieu. Fait que quand il parle de ça, il est convaincu d'être un enfant de Dieu, puis il est d'un qui aurait pu dire, « Jésus, on a fait des miracles en ton nom, on t'a connu! » À son école chrétienne, il était dans une école chrétienne. Au secondaire, son arrogance spirituelle a conduit à fracasser un skateboard sur la tête d'un autre étudiant. Parce que sa famille le traitait de faux prophète avec sa famille, les Hin. Alors, ça l'a piqué, il a cassé, il a fracassé sur un skateboard sur la tête du jeune. Et là, il disait, hey, pour qui il se prend de parler comme ça contre ma famille? Je suis un Hin. Costihin. Voyez-vous l'arrogance? Bien, ça, c'est l'arrogance qui caractérise les faux docteurs qu'on voit dans notre texte. Puis cette arrogance-là lui venait de son père, lui venait de son oncle. Tu peux aller à la prochaine. Il ne craignait pas les gloires. Il ne craignent pas les gloires. Et bon, tu peux aller jusqu'à temps que tu vois le troisième point, ils ne craignent pas les gloires. Quand on lit ce verset dans Jude, parce qu'on retrouve aussi ce verset-là dans Jude, ça nous aide à comprendre c'est quoi ces gloires-là. Du moins, je pense que ça nous aide. Probablement que Pierre fait référence aux anges. Peut-être même les anges déchus. Parce que regardez, Juge, tu l'avais-tu? Ah, il devait être avant. Hein? Au pire, on va l'abandonner parce que ça va être, ça va... Ouais. Si c'est trop mêlant, tu le fermeras, Mario, parce que ça va juste distraire. Jude 8, 9. Malgré cela, ces hommes aussi injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Donc, il n'a pas osé injurier le diable. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et dans 2 Pierre 2, 10, 11, ben, c'est ce qu'on a vu. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires alors que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Alors, pourquoi Pierre les appelle les gloires, les anges, ou peut-être même les anges déchus? Ben, peut-être simplement parce qu'ils ont été créés par Dieu. Les anges ont été créés par Dieu avant d'être déchus. Dieu, c'est lui qui les a créés. Mais l'idée, je crois, c'est que ce n'est pas à nous de condamner Satan et ses démons. Ce n'est pas à nous à commencer à prendre autorité sur Satan. Comme j'ai déjà entendu souvent le faire, l'idée de prendre autorité au nom de Jésus, d'injurier l'ennemi. Les anges qui sont pas mal plus puissants que nous n'osent même pas le faire. Puis nous, on oserait faire ça. Les faux prophètes, ben, ils osent faire ça. Ils osent prendre autorité sur le diable, puis les injurier, puis dire toutes sortes d'affaires. Puis je pense qu'on n'est pas appelé à faire ça. Ensuite, prochain point, ils sont semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. C'est quand même fort comme image, hein? Des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Les animaux vivent selon leur instinct, hein? Des fois, on voit des animaux faire des trucs là, vraiment bizarres ou dégueux des fois. Puis on dit, ben c'est de l'instinct. Ils ont un instinct en eux, puis on ne comprend pas, mais ils font des choses. C'est vraiment instinctif, c'est en eux. On ne peut pas reprocher à un lion de dévorer une gazelle. Pauvre petite bête, était donc belle, pourquoi tu as fait ça? T'sais, on peut pas, c'est instinctif, il va sauter dessus, il va la manger. Ben, ces faux docteurs qui ne sont pas sauvés, faut pas oublier que c'est pas des chrétiens. C'est pas des chrétiens garés. C'est pas des chrétiens qui ont perdu leur salut. On croit pas qu'on peut perdre notre salut. C'est des faux chrétiens. C'est pas des vrais chrétiens. Ils sont pas sauvés. Ils vont aussi vivre selon leur instinct déchu. La nouvelle naissance, c'est un miracle qui est opéré par le Saint-Esprit qui transforme les vies. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu vous transforme à chaque jour, d'année en année. L'homme non régénéré n'a pas de transformation. Il va vivre selon ses instincts non régénérés. C'est quoi ces instincts-là? Bien, tous nos péchés qu'on avait dans le passé, que des fois on a encore les luttes, mais on n'est plus appelé à vivre, puis on n'est plus obligé de vivre selon ses instincts, parce que le péché, Christ est mort, on n'est plus sous l'esclavage du péché. Mais ces faux docteurs-là sont encore pris sur l'esclavage du péché. Et ils vont obéir à ces instincts-là de cupidité. On va les voir un petit peu plus dans le prochain point. Ce qu'ils font, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Les premières victimes sont souvent ceux qui sont jeunes dans la foi. Ou ceux qui ne sont pas fondés dans les Écritures. Ou ceux qui sont... vous savez, on a toute une personnalité. Hein? On a des gens sceptiques, on a des gens moins sceptiques. J'allais dire gulib, mais ça fait comme un peu baveux. C'est pas l'idée gulib qui croient tout et sont stupides. Mais on a des gens qui sont moins sceptiques, qui sont plus... ils font confiance peut-être plus facilement. On a des gens plus froids, d'autres qui sont plus proches de leurs émotions. Donc, voyez-vous, il y a un type de clientèle pour ces faux docteurs-là. Des gens qui vont croire à des choses sans nécessairement aller valider ou qui vont se laisser embarquer facilement. Puis, c'est ça, on a toutes sortes de personnalités. Et les premières victimes, bien, c'est ces gens-là. Jeunes dans la foi, mal affermis ou avec une personnalité qui est propre à être embarqué dans ces choses-là. Creflo Dollard, c'est un homme... il est là. Il dit, « Si je veux croire que Dieu peut me donner un avion de 65 millions de dollars, vous ne pouvez pas m'arrêter. » Et vous savez quoi? La foule qui est là devant lui, là, parce qu'il dit ça dans une prédication, et les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient « Amen! » Des gens qui sont là pour aller entendre l'Évangile, pour aller entendre la parole de Dieu, ils voient cet homme-là qui prêche, puis ils sont souvent dynamiques, puis ils s'en rendent. Puis là, si je veux croire que Dieu peut me donner un avion de 65 millions de dollars, vous ne pouvez pas m'arrêter. Puis là, le monde, c'est « Ouais! » Puis « Amen! » à ça. Si la foule dit « Amen » à ce genre d'affirmation-là, c'est parce qu'elle ne consulte pas, elle ne lit pas sa Bible pour voir si ce qu'on dit est vrai. Et ceux qui sortent de ces milieux, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent éventuellement de ces milieux, découvrent l'erreur, comment en lisant les Écritures? Tu peux voir des affaires qui clochent, bizarre, mais semble que, mais lis la parole, puis tu vas voir tout ce qui est faux. Tout ce qui n'est pas fondé. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est fondé dans les Écritures? Parce que là, je parle d'exemples extrêmes. C'est facile pour nous de dire, hey, ça, l'autre qui était là avant, là, c'est facile pour nous de dire, il est dans le champ. Mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont très subtiles, beaucoup plus subtiles, qu'on peut embarquer, qu'on peut croire, qu'on peut penser que Dieu est comme ça, Dieu fait ci, Dieu fait. Il faut être fondé dans les Écritures. Il faut lire la parole. Il faut la comprendre. Par le Saint-Esprit qui nous habite, faut l'étudier puis voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire pour justement détecter toutes les faussetés qui peuvent être. Puis même des choses que moi, j'ai des prêches que j'ai fait que là, j'étudie, puis à un moment donné, je dis « Ah, ouais, finalement, c'est vraiment ça que ça veut dire. Oh boy, il a 10 ans, j'avais pas dit ça. » C'était pas une erreur de doctrine grave, mais j'ai enseigné des choses que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça que ça voulait dire vraiment le texte. Vous voyez, il faut lire la parole, il faut l'étudier pour la comprendre. On va découvrir des choses que j'ai toujours pensé que ça voulait dire ça. Mais finalement, non, il faut être fondé dans les Écritures. Ensuite, ils apportent des discours enflés de vanité et parlent d'une manière injurieuse. On dit que leurs discours sont vains et vides. Pourquoi? Parce que leurs discours, vous remarquerez, c'est toujours pour plaire aux hommes. Il y a beaucoup de discours de motivation, même dans les églises au Québec, puis j'en nomme pas. On peut écouter des messages dans d'autres églises. Beau message ce matin, oui, c'est une belle prêche de motivation, c'est un beau discours pour motiver, pour pepper le monde. Mais il n'y a pas prêché les Écritures. C'est le genre de motivateur, hein? Tu vas réussir, tu es capable. Dieu t'a appelé pour quelque chose de plus grand. Puis là, les gens sont, ouais, puis là, amen, oui, Dieu m'a appelé pour quelque chose de plus grand, puis Dieu veut te bénir. Puis là, quand on va dans la prospérité, dans les milieux plus loin encore, Dieu veut t'enrichir, Dieu veut te guérir. C'est-tu vrai que Dieu veut guérir? Bien, pas nécessairement. Ça se peut que Dieu ne veuille pas guérir un de ses enfants. Sinon, il guérirait tout le monde. Dieu veut t'élever. Hein? Atteins ton but, vise plus haut. Tu es capable, c'est ton heure de gloire. Vous savez, quand l'homme prend la place de Christ dans la prédication, c'est une injure envers Dieu. Puis, il y a beaucoup de prédicateurs qui font ça. Parce que Jésus a clairement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'essaye pas d'être quelqu'un toi-même. N'essaye pas de t'élever toi-même. N'essaye pas d'atteindre ton plus grand potentiel par tes propres. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Joel Osteen, c'est un. Je pense que j'ai une. Oui, c'est ça. Vous l'avez sûrement déjà vu, vous voyez sa face là, qui est là. Il y a un livre qui est écrit, c'est ton temps. Active ta foi. Réalise tes rêves et augmente la faveur de Dieu pour toi. Voyez-vous ce genre de discours? Il y a un autre livre qui est écrit qui s'appelle « Deviens un meilleur toi ». On est tous encouragés à vouloir devenir meilleur. Puis, hein, fait que c'est motivant. Wow, belle prêche ce matin. « Deviens un meilleur toi ». Je sors de l'église, je suis pépé, mais il n'y a rien prêché de l'Évangile. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça c'est le message de base à propos de l'homme. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Peut-être pas aussi motivant que l'autre message, hein? Mais c'est ce que la Bible enseigne. Puis la Bible dit que seul Jésus a vécu la vie parfaite que je ne serais jamais capable de vivre. Et il l'a vécu pour moi, il est mort pour moi, il a pris mes péchés pour me sauver. Puis en lui, je peux devenir une nouvelle personne, parce que lui fait le travail en moi. Alors, c'est beaucoup de prédication, de motivation, mais on se rend compte de plus en plus que l'homme est présent, mais Jésus de moins en moins. Mais les gens sont motivés par ça. Puis ils aiment ça, puis ils en veulent encore. Mais ce n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est que Christ est venu, il est mort pour moi, puis c'est par lui que je peux maintenant vivre en nouveauté de vie. On ne doit pas réformer nos vies extérieures. On doit naître de nouveau. C'est ça que la parole nous enseigne. Puis dans ces lieux-là, ces milieux-là, c'est beaucoup orienté vers cette réforme extérieure de nos vies. Tout le monde peut faire une réforme extérieure de sa vie. Tout le monde sur la planète Terre peut réformer sa vie extérieurement, puis arriver à un certain degré de réussite, puis être content, puis être fier. Tout le monde peut faire ça. Mais il y a seulement Christ qui peut réformer nos cœurs, les changer, les transformer, puis nous faire naître de nouveau. Mais on peut se poser la question, est-ce que Dieu a aussi de merveilleuses choses prévues pour nos vies? Parce que c'est ce que les prédicateurs, les faux docteurs, hein, ils vont faire miroiter ces idées-là. Dieu a plus pour toi, puis Dieu veut plus. Puis... oui, mais ce n'est pas nécessairement de l'argent puis de la santé. Dieu avait un merveilleux plan pour Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il est en prison pendant, ça a pris 14 ans avant que finalement Dieu le sorte de là avec les rêves de Pharaon, puis on connaît l'histoire. C'était le plan de Joseph, pour Joseph. Dieu avait un merveilleux plan pour Étienne. Prêche l'Évangile jusqu'à temps que tu reçoives des roches à en mourir. C'est mon plan pour toi, Étienne. Mais ce n'est pas glorieux, ces genres de plans-là. Il faut toujours se rappeler notre engagement pour suivre Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, ça, c'est le vrai christianisme. Ce n'est pas ça que les faux docteurs, les faux enseignants vont prêcher. Ensuite, il se livre au plaisir. Il se livre au plaisir Costihin. Le neveu qui s'est converti, dans son livre, il rapporte combien il faisait en fait, combien l'hypocrisie était là, dans ces milieux-là. Parce qu'eux, ils étaient là en avant, puis lui, il avait le ministère de catcher. Quand les gens tombent dans l'esprit, lui, il les attrape pour pas qu'ils tombent et qu'ils se cassent la tête. Puis après ça, il les dépose, puis ensuite, il va chercher. Puis c'était son ministère. Il était un catcher. Puis le soir, après les réunions de guérison, lui et son ami fréquentaient les bars. Il allait dans les bars, dans les nightclubs, dépensait des milliers de dollars dans les soirées mondaines. Même à un moment donné, ils sont revenus dans leur hôtel, puis ils ont fait un party, puis ils ont fait une bataille de bouffe, puis ils ont lancé, je pense, ils ont eu des dégâts jusqu'à 20 ou 30 000 piastres, puis je ne sais pas trop quoi, puis c'est son oncle qui a payé, puis ils ne l'ont pas dit à son père. Puis... voyez-vous le genre de... ils sont là à prêcher l'Évangile. Ils se livrent au plaisir. Et le texte nous dit, ce sont des fontaines sans eau et des nuées qui chassent un tourbillon. Hein? Autrement dit, ils promettent quelque chose de rafraîchissant, une révélation de Dieu, mais ils ne livrent jamais la marchandise. Une fontaine sans eau. La fontaine est là, j'ai tellement soif. Vas-y, viens, t'arrives, puis il n'y a rien qui coule. Produisent rien d'autre qu'un show. Promettent la liberté, mais eux-mêmes sont esclaves. Le commentaire du chercheur, j'ai aimé cette citation-là. Je ne sais pas, j'ai peut-être mis... les hérétiques sont comme un homme qui pèse 300 livres, qui vendrait des livres pour pouvoir maigrir. Il a la solution, mais lui-même, il ne l'applique pas. Mais c'est un peu ça, ces hommes-là. Ils ont des supposées solutions, mais dans leur vie, il n'y a rien. Puis la mère de Costi, Elle était malade à un moment donné, pendant leur ministère, malade d'un cancer, une tumeur au cerveau. Et l'oncle, il prêche, puis ils font toutes sortes d'affaires, puis lui, il attrape le monde, puis ils font des guérisons. Puis pendant tout ce temps-là, il voit sa mère en avant, dans la première rangée, qui est en train de mourir d'un cancer. Il n'y a personne de ma famille qui sont venus pour la guérir. Pourquoi vous ne l'avez pas guéri? Mon oncle est un guérisseur, guéris-la. Puis mon père, puis je sais qu'il y a d'autres dans la famille. Personne n'est venu. Et son père, il a dit, t'en fais pas, elle va aller bien, Dieu va la guérir. Mais il continue à prêcher pendant qu'il était malade. Puis le seul qui a réussi à le guérir, c'est un médecin, c'est un chirurgien qui est venu, qui l'ont opéré, puis qui ont donné des traitements de chimio, puis là, ils ont pu guérir son cancer. Mais il était incapable parce que c'était tous des fraudeurs, des faux. Et là, on peut se poser la question, comment ça les gens continuent de donner, même si les promesses ne s'accomplissent pas? Bien, il y a trois raisons que je vous propose. Premièrement, souvent on regarde ces gens-là et on dit, voyons, ils sont bien une gang de caves, ou je ne sais pas, on utilise des pas beaux mots, ils sont vraiment stupides de continuer à suivre. Mais il faut comprendre que c'est des gens désespérés. Hein. Vraiment des gens désespérés qui veulent tellement avoir plus d'argent, un peu plus d'aide, et ils veulent s'en sortir dans leur vie. C'est du pauvre monde. Hein, ça le dit, le texte, ces prédicateurs-là, ces faux docteurs, ils les amorcent. Hein? Ça dit, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement, il va les chercher, ils vont les amorcer. Vous savez, la majorité vivent des luttes. C'est quand on s'arrête et on demande aux gens, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton histoire, c'est souvent une tristesse pour beaucoup, beaucoup de ces gens-là. Relations brisées, des problèmes de drogue, de toutes sortes de problèmes. Et la majorité du monde cherche un meilleur mode de vie. Ils veulent de l'espoir. Peux-tu me donner un peu d'espoir? Et là, on a ce prédicateur-là à la télé qui offre un peu d'espoir. Ils sont tellement désespérés. Mais ils ne vont pas à la bonne source. Au lieu d'aller à Christ, ils vont à toutes ces folies-là. Deuxième raison, bien, il y en a qui ont tellement investi que c'est difficile à se retirer avant de gagner la cagnotte. Mon oncle, qui allait jouer dans les machines au casino. Vous savez comment ça marche, le casino, hein? On met l'argent dans une machine, puis il y a une cagnotte qui monte. Chaque fois que tu joues une pièce, ça monte d'une scène, mettons. Puis à un moment donné, c'est rendu à 1 800. Puis, waouh! Puis là, à un moment donné, tu regardes toutes les autres 500, 5 000. Hey, là, t'avais de payer. Puis mon oncle était comme ça. Il dit là, t'avais de payer, t'avais de chanter. Parce que quand tu gagnes, ça fait de la musique. Fait que là, il disait ça. Hey, t'avais de chanter! Puis là, il en remettait un autre. Puis là, il était rendu à 700, à 800, à 900. Puis des fois, il arrivait qu'il faisait chanter. Mais souvent, non. Hein. Il a pas mal plus perdu que gagné. Mais les gens, ils ont investi. Ils disent, ben là, j'ai déjà envoyé tellement d'argent qu'il manquait peut-être juste un petit brin ou deux pour vraiment réussir à aller la faire chanter. Puis que là, je vais l'avoir, ma bénédiction. Alors, il y a vraiment cet aspect-là. Je pense que les gens, ils n'osent pas se retirer parce qu'ils espèrent que la cagnotte se mette à chanter. Puis, troisième raison pourquoi les gens continuent, il y a un aspect d'orgueil. Je pense que c'est très humiliant d'avouer qu'on s'est fait avoir. Imaginez-vous, hein, je me suis fait avoir, puis donc on reste. Mais Costi-In, il a brisé beaucoup de relations dans sa famille quand il est sorti de ce milieu-là. Ça a été dur pour lui. Et finalement, leur fin, j'achève, excusez, je veux pas, je sais que... Mais leur fin, versets 20 et 21, ils périront par leur propre corruption, qui est le salaire de leur iniquité. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Comme des brutes, ils sont nés pour être prises et détruites. Et verset 21, on a lu, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice et de s'en détourner après l'avoir connue. » Il aurait été mieux de rejeter Dieu au tout début que de faire ce qu'ils ont fait, de suivre d'une certaine manière, d'être sympathisant à l'Évangile et finalement se détourner comme ça par un esprit de cupidité. Leur dernière condition est d'avoir rejeté Dieu en connaissance de cause, puis ça, c'est pire. Et puis le proverbe est intéressant, la truie, hein, qui nous rappelle que plusieurs se contentent de seulement laver l'extérieur. On peut frotter une truie mais on ne peut pas la garder propre. C'est dans sa nature de retourner dans la boîte. Il y a plusieurs personnes qui passent par une réforme religieuse. Ils nettoient l'extérieur, mais c'est dans leur nature de retourner dans la boîte parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, conclusion, je veux juste vous dire que, en terminant, qu'il faut être sur nos gardes. Je vous ai parlé de situations, de prédicateurs extrêmes. Tu sais, on est peut-être à des années-lumière dans notre Église de ce genre de comportement-là, mais il faut être sur nos gardes. Puis il y a des mouvements au Québec, à Québec même, que j'ai vu il y a quelques années, qui ne sont pas des mouvements de l'Évangile de prospérité, mais que ça se rapproche un peu de cette fausse doctrine-là. C'est l'évangélisation par la guérison. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les gens partent dans les rues, puis ils voient les gens, puis ils disent « Bon, t'es malade, as-tu quelque chose? Veux-tu que je prie pour toi? » Puis ils prient pour les guérisons, puis ils évangélisent comme ça. Puis je ne condamne pas, je ne dis pas que cette personne-là, puis ces gens-là, ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu, mais extrêmement de difficulté avec cette approche-là. Je dis, si tu pries, puis ça ne marche pas, la guérison, je ne sais pas ce qu'ils disent, c'est quoi leur tactique. C'est vrai que Jésus a guéri beaucoup de monde à sa venue. Hein. Mais c'est normal qu'il le fait, parce que c'est des signes et des miracles qui devaient accompagner le Christ. Et aujourd'hui, Jésus nous demande d'aller prêcher la parole, de faire des disciples, mais il ne nous demande pas d'aller guérir le monde. Ce n'est pas dans notre grande commission. Allez, faites des guérisons partout dans le monde. On mélange l'histoire dans les actes, puis on en fait des doctrines. C'est pas ça que Jésus a demandé. C'est pas parce que c'est arrivé de même qu'on doit continuer comme ça. Alors moi, je suis prudent avec ce genre d'approche-là. Soyons sur nos gardes. Oui, Dieu veut, Dieu peut guérir encore aujourd'hui, mais je ne crois pas que c'est ça qu'on doit offrir premièrement au monde. L'Évangile, c'est l'œuvre de Christ à la croix qui peut guérir les cœurs les plus endurcis, pécheurs, perdus. Et quand Isaïe a dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Isaïe n'est pas en train de dire qu'il est mort pour nos maladies. Jésus est mort pour nos péchés. Ce n'est pas nos maladies qui nous condamnent, c'est nos péchés. Donc, la colère de Dieu est tombée sur le Fils pas à cause de nos maladies, à cause de nos péchés. Donc, puis même dans les églises, beaucoup d'églises très, très correctes, si je pourrais dire comme ça, il y a des gens qui croient que ça, oui, Dieu devrait me guérir, parce que, regarde, c'est écrit, il a porté nos souffrances, il a pris nos maladies sur lui. Mais ce que Isaïe veut dire, c'est que le Messie, quand il va venir, il va guérir du monde pour démontrer qu'il est le Messie. C'est ça que ça veut dire. Il a pris vos maladies. Il a guéri des gens pour prouver qu'il était le Messie. Il s'est occupé des malades. Alors ça, c'est juste un exemple, mais je pourrais multiplier l'idée, soyons sur nos gardes, puis soyons fondés dans les Écritures. Je terminais avec après avoir vu toutes les fausses guérisons et tromperies dans le ministère de votre oncle, quelqu'un a demandé à Costi, croyez-vous toujours que Dieu guérit les gens et peut faire des miracles? Puis j'ai aimé sa réponse. Il dit, absolument! Je crois sans équivoque que Dieu est un guérisseur et peut guérir n'importe qui à tout moment. Je crois aussi qu'il fait encore des miracles aujourd'hui. Cela étant dit, je ne crois pas qu'on puisse se promener aujourd'hui et faire des miracles comme Jésus le faisait lors de sa venue. Personne n'a le pouvoir de guérir les gens à volonté. S'il pouvait guérir les gens, il ferait la une des journaux en vidant les hôpitaux à cause de leur pouvoir de guérison. Quand les gens sont malades, je crois que nous devons prier pour la guérison et endurer l'épreuve avec foi. Quel que soit le résultat, nous devons prier le Père comme Jésus l'a fait dans Luc 22, 42, quand il a dit « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, mon but, ce n'est pas de parler contre ces gens-là, avec ce ministère-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas nos frères et sœurs, mais soyons prudents avec ce qu'on voit, surtout sur Internet, frères et sœurs. J'ai des fois une sœur qui m'écrit, qui me dit « Hey, j'écoute ça, est-ce que c'est-tu correct? » Puis je trouve ça beau, puis je vais voir c'est qui, prédicateur, je regarde c'est quoi, puis je vais lui répondre « Écoute, je pense que tu ne devrais pas écouter ça. » C'est souvent la réponse que je donne. Puis je lui conseille d'autres qu'elle peut écouter. Mais je trouve ça beau. Informons-nous. vous écoutez quelque chose que vous trouvez édifiant, beau, mais validez auprès de quelqu'un, peut-être qu'il y a plus d'expérience ou de connaissance au niveau doctrine, au niveau de la parole, parce qu'on ne veut pas écouter n'importe qui. Puis avec Internet, là, c'est épouvantable comment il y a de la cochonnerie qui se passe au niveau de l'Évangile. C'est épouvantable. Alors, c'est une petite mise en garde, je pense, le message de ce matin. Soyons fondés dans les Écritures. Hey, désolé, hein, je suis dépassé un peu. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Père, on a besoin de toi parce que l'ennemi, il est là, il nous guette, il regarde qui peut dévorer. Et souvent, c'est ceux qui sont qui sont mal affermis dans les Écritures, ceux qui sont peut-être plus sensibles, mais peu importe, Seigneur, on prie que tu nous gardes. Et oui, que tu nous gardes dans la vérité. Que tu nous donnes la sagesse aussi de filtrer ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, et qu'on puisse être encore plus fondé dans ta parole. Et merci pour nos églises qui offrent ces enseignements semaine après semaine et mercredi aussi, pour justement être fondé dans les Écritures, connaître ta parole, pour la mettre en pratique. Bénis l'Assemblée ici, bénis leur témoignage. Puisses-tu, Père, sauver des âmes, attirer des âmes à toi, ici à Sainte-Marie et dans les alentours. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que je prie. Amen.